Deuxième partie, après la Flandre, l'Artois. Les alliés.
De toutes les fonctions humaines, celle qui consiste à gouverner ses semblables, encore que la plus enviée, est la plus décevante, car elle n'a jamais de fin et ne permet à l'esprit aucun repos. Le boulanger qui a sorti sa fournée, le bûcheron devant son chêne abattu, le juge qui vient de rendre un arrêt, l'architecte qui voit poser le faîte d'un édifice, le peintre, une fois terminé son tableau, peuvent, pour un soir au moins, connaître cet apaisement relatif que procure un effort mené à son terme. L'homme de gouvernement, jamais. À peine une difficulté politique paraît-elle aplanie qu'une autre, qui se formait justement pendant qu'on réglait la première, exige une attention immédiate. Le général vainqueur profite longuement des honneurs de sa victoire. Mais le ministre doit affronter les nouvelles situations nées de cette victoire même. Aucun problème ne tolère de rester longtemps irrésolu, car tel qui semble aujourd'hui secondaire demain prendra une importance tragique. L'exercice du pouvoir n'est guère comparable qu'à celui de la médecine, qui connaît également cet enchaînement sans trêve, cette primauté des urgences, cette constante surveillance de troubles bénins parce qu'ils peuvent être symptômes de lésions graves, enfin ce perpétuel engagement de la responsabilité en des domaines où la sanction dépend de circonstances futures. L'équilibre des sociétés, comme la santé des individus, n'a jamais un caractère définitif et ne peut représenter un labeur achevé. Le métier de roi, au temps où les rois gouvernaient eux-mêmes, comportait ses servitudes ininterrompues. À peine Louis X était-il parvenu à mettre en sommeil les affaires de Flandre, se résignant à les laisser pourrir puisqu'il ne pouvait les résoudre, à peine avait-il couru à Reims, se faire revêtir du prestige mythique que le sacre conférait au souverain, fut-il le moins aimable, le moins compétent des monarques, qu'aussitôt de nouveaux troubles éclatèrent dans le nord de la France. Les barons d'Artois, ainsi qu'ils l'avaient promis à Robert, n'avaient pas désarmé en rentrant de l'Osteboueux. Ils parcouraient le pays avec leurs bannières, tâchant de gagner les populations à leur cause. Toute la noblesse leur était acquise, et par là, les campagnes. La bourgeoisie des villes était partagée. Arras, Boulogne, Thérouanne faisaient cause commune avec les ligueurs. Calais, Avesnes, Bapaume, Aire, Lens, Saint-Omer demeuraient fidèles à la comtesse Mao. Le comté montrait une agitation fort proche de l'insurrection. La haute noblesse était représentée dans la Ligue par Jean de Fienne, beau-frère du comte de Flandre, ce qui rendait le mouvement de révolte particulièrement inquiétant. Pour la procédure, les conjurés disposaient d'un des leurs, Gérard Quirez, homme fort habile à formuler les doléances, rédiger les pétitions et conduire les actions juridiques devant le Parlement et le Conseil du roi. Les sires de Soistre et de Caumont dirigeaient les rassemblements militaires. Tous travaillaient pour le comte et sous l'inspiration de Robert d'Artois. Leurs revendications étaient de deux sortes. D'une part, ils requéraient l'application immédiate et intégrale de la charte dont ils avaient obtenu l'octroi récemment et qui restaurait les coutumes du temps de Saint-Louis. D'autre part, ils réclamaient des changements de personnes dans l'administration du comté et avant tout le renvoi du chancelier de Mao, Thierry d'Hirson, leur bête noire. Leurs exigences, si elles avaient été satisfaites, eussent conduit la comtesse Mao à être privée de toute autorité dans son apanage, ce qu'espérait fermement Robert. Mais Mao n'était pas femme à se laisser dépouiller. Rusant, discutant, promettant s'en tenir, feignant de céder un jour pour tout remettre en question le lendemain, elle cherchait à gagner du temps par n'importe quel moyen. Les coutumes ? Certes, on allait appliquer les coutumes, mais il fallait auparavant mener enquête, afin qu'on connût bien précisément quelles étaient les coutumes d'autrefois en chaque seigneurie. Les prévôts, les officiers, le chancelier lui-même. S'ils avaient failli ou abusé de leurs fonctions, elle les châtierait sans pitié. Pour cela aussi, elle était résolue à faire enquêter. Et puis, l'on portait le débat devant le roi, qui n'y comprenait rien et songeait à ses autres soucis. La comtesse Mao écoutait les doléances de maître Gérard Quirez. Elle témoignait une évidente bonne volonté. Afin de s'accorder sur tout, on aurait une entrevue prochaine à Bapaume. Pourquoi Bapaume ? Parce que Bapaume était à elle, qu'elle y entretenait une garnison. Elle insistait sur Bapaume. Et puis, le jour convenu, elle ne venait pas à Bapaume, car elle avait dû se rendre à Reims pour le sacre. Le sacre passé, elle oubliait l'entrevue promise, mais elle viendrait bientôt en Artois, compris patience. Les enquêtes suivaient leur cours. c'est-à-dire que des sergents s'employaient à récolter sous menace de bâton ou de prison des témoignages favorables à l'administration du chancelier Thierry d'Hirson. Le sang monta bientôt à la tête des barons. Ils entrèrent en rébellion ouverte et firent défense à Thierry de reparaître en Artois, le donnant pour mort s'il s'y montrait. Puis, ils mandèrent devant eux un autre Hirson, Denis, le trésorier, qui eut la sottise de se rendre à leur convocation. Lui mettant une épée sur la gorge, ils l'obligèrent à renier son frère par serment. Les choses prenaient si dangereusement tournure que Louis X résolut d'aller lui-même à Arras pour rétablir l'ordre. Il y vint, mais sans résultat. Que pouvait-il, alors qu'ayant dissous son armée, la seule bannière restée sur pied était justement celle qui se révoltait.